Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et dans le magazine aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Roland Buquet, étudiant en Master 2 en gestion durable des territoires de montagne à Gap et en stage à Forêt Alpine, une association qui travaille sur les forêts dans le nord des Hautes-Alpes. Et dans ce cadre, il est ici car il a mené une enquête sur le rapport des acteurs et des usagers avec les forêts communales en leur posant une question, à quoi est-ce qu'ils tiennent ? Enfin, plusieurs questions, on va y revenir, mais pour savoir à quoi est-ce qu'ils tiennent dans ces forêts communales. Alors Roland Buquet, vous êtes donc en stage à Forêt Alpine, est-ce que vous pouvez quand même nous présenter l'association rapidement ?
Ouais. Alors, comme vous l'avez bien dit, c'est une association qui travaille sur le nord des Hautes-Alpes, donc qui est basée plus ou moins à Briançon, et qui travaille avec différentes communes sur un projet qui s'appelle Forêt Commune, et donc qui vise à travailler avec différentes communes sur des sujets qui touchent à la forêt, à leur forêt communale, en faisant un petit peu le lien des fois avec les habitants, avec différents acteurs et usagers. Donc c'est dans ce projet que s'insère mon enquête. Mais voilà, il y a d'autres projets de l'association qui sont, d'autres projets comme la construction d'un living lab avec les scientifiques. Donc c'est dans l'idée de construire un petit peu quelque chose. Sur le plan science-société, de construire ce rapport avec les habitants, les acteurs locaux, les habitants, les citoyens. Voilà.
Oui, donc c'est une association qui travaille toujours avec une multitude d'acteurs autour de la forêt et un peu de médiation et de sciences participatives.
Et de sciences participatives, exactement.
Beaucoup de sciences participatives.
Beaucoup, ouais. Donc c'est souvent un relais entre différents acteurs, différents usagers et sur différents projets, mais voilà, c'est souvent une structure
commun,
un peu centrale, un point commun entre tous ces acteurs. Ouais.
Et alors vous, pourquoi un stage à Forêt Alpine ?
Alors moi, c'était pour un petit peu la méthodologie de l'enquête qui m'intéressait, parce que c'est quelque chose que j'avais eu l'occasion de faire un petit peu dans mon master, mais là, c'était un moyen d'approfondir un petit peu la chose, d'apprendre comment on s'y prend de manière un peu plus poussée. Et puis c'était le sujet forêt, moi, qui m'intéresse beaucoup. Donc, dans l'idée de comprendre la forêt sous par le prisme de différents acteurs, parce qu'on peut être un petit peu dans sa bulle et dans sa manière de la voir. Et je trouvais ça intéressant de demander à différentes personnes ce qui était important pour elles, ce qu'elles faisaient dans la forêt. Enfin, c'était un autre moyen, un autre angle pour mieux connaître la forêt.
Parce que c'était une offre de stage, l'enquête était déjà prévue et c'était une offre de stage de Forêt Alpine à laquelle vous avez répondu alors.
Voilà, c'était une offre qui était déjà assez construite. Donc ça a été fait aussi avec Nathalie Quix, qui est donc chercheuse à l'INRAE. Et c'était déjà assez défini. Lucie Lombard et donc de Forêt Alpine et Nathalie Quix avaient pas mal décidé des orientations. Mais après, j'ai pu faire aussi quelques préconisations en plus.
Apporter votre patte.
J'ai pu apporter un petit peu ma patte, mais dans l'idée d'identifier ce à quoi on attachait de l'importance, ça a été un petit peu défini à l'avance et c'est aussi ça qui m'a intéressé.
Que ce soit encadré. Oui, parce que l'INRAE, donc je le rappelle pour les auditeurs et auditrices, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc c'était une chercheuse qui vous accompagnait.
Voilà.
D'accord, donc il y avait déjà l'expertise, enfin, qui pouvait vous accompagner sur tout ce
sur
travail.
Sur la méthode d'enquête,
et
oui, qui a déjà travaillé avec des étudiants. Et Lucie aussi a déjà eu une étudiante qui a fait une enquête en 2021 un petit peu sur un sujet similaire. Et effectivement, elles ont pu me donner beaucoup de conseils sur la méthode et l'approche.
Et on va revenir sur cette préparation de l'enquête. Avant cela, est-ce que vous savez à quel besoin répondait cette enquête ? Pourquoi mener une enquête sur ce sujet ?
Alors, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a des nouvelles problématiques, des évolutions de la société et du climat qui vont avoir des répercussions assez multiples sur les différents acteurs et usagers. Et puis, on se questionnait du coup sur la possibilité des personnes de s'associer, de faire quelque chose ensemble pour répondre à ces problématiques. Donc voilà, le besoin a été un petit peu identifié par l'association Forêt Alpine qui travaille déjà là-dessus, de concertation, de faciliter en tout cas cette concertation qui peut être constructive et apporter des solutions. Et donc, voilà, c'est globalement...
Et donc, aider la concertation en connaissant mieux ce qui est important pour les personnes qui
voilà.
vont être mises autour de la table, en fait. Mises
voilà,
autour de la table.
L'idée, c'est de porter, que chacun prenne connaissance des usages des autres, des activités des autres, parce que le contexte de multifonctionnalité en forêt a été un petit peu aussi... a évolué récemment. Il y a eu des pratiques qui se sont un petit peu... intensifié, des usages qui se sont multipliés.
Par donc, exemple
Et bien, par exemple, par rapport à nos aînés, en tout cas, qui avaient des usages assez directs avec la forêt dans le fait d'en tirer quelque chose. Les personnes allaient prélever du bois en forêt, elles faisaient de l'élevage parfois en forêt, elles se servaient de la forêt pour se chauffer. Aujourd'hui, il y a beaucoup... Donc, il y a le ski, on peut faire du ski en forêt, on peut... aller faire toutes sortes de loisirs, du VTT, de la moto pour certains. Enfin, il y a beaucoup d'activités différentes et ça, c'est une grosse évolution qui implique du coup des nouvelles problématiques.
Et là, votre enquête s'intéresse uniquement aux usages dans la forêt communale. Est-ce qu'on peut rappeler ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'une forêt communale ?
Donc la forêt communale, c'est une forêt qui est donc la propriété d'une commune. En l'occurrence, ces deux forêts communales, elles sont soumises au régime forestier. C'est pas le cas de toutes les forêts communales, mais donc c'est l'ONF qui va appliquer le code forestier. Et donc c'est les élus qui vont prendre des décisions sur l'aménagement. Tous les 20 ans, il y a un plan d'aménagement qui est fait, et donc des grands objectifs, des stratégies à adopter pour rendre la forêt plus durable. Enfin, c'est tout un cadre aussi juridique et voilà.
Et vous avez travaillé donc avec la forêt communale de Guillestre, de Villars-Saint-Pancras.
C'est les deux communes où j'ai fait mon enquête. Après, l'association travaille aussi à Arvieux, sur d'autres communes un petit peu maintenant avec Chorges. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes sur d'autres communes, ce qui a pu apporter des choses à mon stage en parallèle. Mais mon enquête, les personnes que j'ai rencontrées, en tout cas, c'est des personnes qui sont impliquées sur les forêts communales de Villars-Saint-Pancras et de Guillestre.
C'était à leur demande ou pourquoi celle-là de forêt ?
Alors, c'est parce que c'est des forêts, c'est des communes où il y avait déjà eu des choses qui ont été faites avec l'association Forêt Alpine, des ateliers qui ont été menés, des questionnaires qui ont été diffusés. Les élus étaient particulièrement moteurs aussi sur ces deux communes, donc il y a eu des choses qui avaient déjà été faites. Et là, c'était un moyen de continuer à travailler avec eux. Avec cette enquête, oui.
Et alors, comment vous l'avez menée, cette enquête ? Déjà, peut-être, vous parliez d'un travail préparatoire. comment on monte une enquête ?
Alors, il y avait toute une méthodologie, effectivement. Je suis allé à la rencontre d'un peu plus de 20 personnes sur ces deux communes. L'idée, c'était de faire des entretiens compréhensifs, où j'essayais d'amener les personnes dans une forme de récit de leur vie, dans une forme de narration qui leur permettait d'aller un petit peu sur le thème justement de ce à quoi ils attachaient de l'importance, de sortir du registre un petit peu technique des fois des activités, des métiers qu'on peut avoir. Et ça nous permettait d'avoir ces objets de valeur qui nous intéressaient, avec donc toute la théorie qu'il y a derrière. Donc on s'est appuyé beaucoup sur la philosophie de John Dewey qui définit les valeurs comme pas des valeurs qui sont un petit peu partagées par tout le monde. Forcément, ça peut l'être, mais c'est le fait d'attribuer de la valeur à quelque chose. Donc c'est un processus un peu dynamique et on a essayé de comprendre à quoi les personnes individuellement attachaient de l'importance, ce qui comptait personnellement pour elles, en vue d'éventuellement prendre en compte ces objets d'attachement dans des travaux collectifs, de partager ce qui compte et de, en tout cas, mieux comprendre l'usage de l'autre, l'activité de l'autre et de mieux la connaître.
Et comment on mène un entretien pour les amener vous disiez que c'était des entretiens compréhensifs, mais vous, là, comment ça se passait avec les personnes ? Vous posiez quand même des questions ?
Ouais. Alors j'essayais de me rapprocher d'une forme de conversation un peu normale, mais en ayant une grille qu'on appelait un guide, parce que c'est plutôt qu'une grille vraiment questionnaire. L'idée, c'était de juste avoir en tête les éléments qu'on voulait, peut-être des formulations de phrases un peu qui incitaient le récit. Mais voilà, l'idée, c'était de se rapprocher de la conversation, d'avoir quelque chose d'assez fluide et de pouvoir aller sur le côté aussi personnel, autant que plus technique parfois, pour avoir des éléments de compréhension, de contexte. Mais voilà, c'était l'idée d'avoir cette conversation.
Et ça durait combien de temps un entretien? Ça pouvait être long?
Ça pouvait être, ça a été jusqu'à à peu près 1h30. En moyenne, je dirais que ça faisait à peu près 1 heure. Il y a d'autres entretiens qui ont fait plutôt 1 demi-heure, mais voilà. En moyenne, je dirais 1 heure d'entretien. Ouais.
Et ça permet quand même de réunir les informations nécessaires.
Voilà, ça permettait de réunir beaucoup d'informations, voire je pense qu'on aurait pu, je pourrais aller beaucoup plus loin, on pourrait faire un livre entier, mais voilà, il y a beaucoup de matière et je pense que ça peut être valorisé aussi par la suite, toute la matière que je n'ai pas forcément mobilisée dans mon travail, ma restitution finale. Ouais.
Et comment vous les avez sélectionnées, ces personnes?
Alors, les personnes, on les a sélectionnées pour leur diversité, parce que l'idée, c'est qu'en prenant en compte cette multifonctionnalité de la forêt, comme je le disais, l'idée, c'est d'avoir une diversité de prismes pour mieux comprendre la forêt par cette diversité d'usages, d'enjeux, parce qu'il y a des enjeux qui sont multiples, qui sont des fois pas connus. Enfin, il peut y avoir un cloisonnement aussi des connaissances qui fait que voilà, c'était pertinent d'avoir cette approche, de proposer un cadre de travail collectif pour mutualiser certaines choses, certaines connaissances, certains moyens, éventuellement en vue de faire quelque chose ensemble pour ces acteurs. Ouais.
Et vous avez rencontré des difficultés dans cette enquête?
Des difficultés, il y a eu des... En tout cas, j'ai essayé d'évoluer, de progresser. Au début, évidemment, c'est tout un apprentissage, donc on peut faire un peu des erreurs, on peut se rendre compte que telle question dans le guide n'était pas forcément pertinente ou pouvait poser des difficultés. Enfin, je prenais des notes suite aux entretiens pour voir un petit peu, pour avoir mon ressenti et éventuellement adapter en discutant avec Nathalie Couix et Lucie Lombard, qui co-encadraient le stage, pour affiner certaines choses. Et puis aussi sur ça, c'était aussi dans l'analyse, on s'est beaucoup concerté pour par rapport à la méthode et certaines choses que j'ai dû apprendre sur le tas aussi.
Et face aux personnes, c'était assez fluide, il n'y a pas eu de refus de certaines réponses ou de difficultés dans l'échange plutôt?
Il n'y a pas eu de grosses difficultés, non. Non, non, il y a eu j'essayais de sentir les sujets qui intéressaient les personnes, sur lesquels elles souhaitaient s'exprimer, parce que c'était ce qui nous intéressait. Donc dans l'ensemble, j'allais pas forcément les questionner sur des choses vraiment qui étaient des sujets de conflit pour elles. Voilà, c'était surtout cette idée d'aller sur des sujets qui les passionnaient ou qui les intéressaient en tout cas.
Et justement, on va maintenant passer aux résultats. Je vous propose juste une petite pause musicale et on se retrouve après pour savoir ce qu'il en est ressorti.
Nobody knows how to say goodbye. It seems so easy till you try. Then the moments passed you by. Nobody knows how to say goodbye. Nobody knows how to get back home. We set out so long ago. Search the heavens and the earth below. Nobody knows how to get back home. Darkness too.
Nobody knows how the story ends. Live the day, do what you can. This is only where it began. Nobody knows how the story ends. Nobody knows how the story ends.
Et dans l'émission aujourd'hui, nous parlons d'une enquête réalisée par Roland Buquet avec Forêt Alpine sur les objets de, alors comment vous dites,
d'attachement, d'importance
dans les forêts communales. Donc nous avons parlé de la préparation de cette enquête, de comment vous l'avez menée. Et maintenant, je propose qu'on passe donc à vos résultats. Qu'est-ce qu'a donné l'enquête finalement? Quels sont ces objets?
Alors, il y a eu beaucoup d'éléments. On a essayé d'en retenir, de retenir ceux qui ressortaient particulièrement et qui nous intéressaient, notamment parce que on considère que les gens auront éventuellement envie de faire quelque chose ensemble dans le cas où elles ressentent des besoins, peut-être des problématiques sur certains sujets. Donc, on a retenu ces sujets qui étaient souvent soumis à des problématiques liées à l'évolution de la société et du climat, notamment. Donc il y avait le mélèze, qui est un élément du paysage qu'on retrouve vraiment, qui est très présent dans le nord des Hautes-Alpes.
Qui est un arbre, non? Pour celles et ceux qui peut-être ne connaissent pas.
Voilà, qui est un arbre et qui est auquel beaucoup de personnes attachent de l'importance, parce que les usages sont souvent assez liés à la forme de la forêt, à comment elle est, de quoi elle est constituée. Donc là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'usages qui sont diversifiés. Il y a des personnes qui vont apprécier le mélèze parce qu'on peut y faire du ski en hiver, par exemple, dans son sous-bois. Il y a des éleveurs qui vont dire qu'elles peuvent faire pâturer leurs animaux en sous-bois parce que c'est une essence qui laisse passer de la lumière. Il perd ses aiguilles aussi. Donc il y a un sous-bois qui permet à la ressource fourragère de pousser. Et c'est un bois aussi qui est d'une grande qualité sylvicole, parce que longévive, parce que imputrescible, et c'est un bois qui est assez noble. Donc les exploitants l'apprécient. On lui attribue aussi de la valeur parce que potentiellement résilient face au changement climatique. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'essences qui sont mises en difficulté par les sécheresses, les fortes chaleurs. Il y a des endroits où le sapin est mis en difficulté parce que des fortes chaleurs. Donc voilà, ce mélèze.
Et le mélèze est une espèce endémique?
Alors le mélèze, il est, on l'a trouvé en tout cas il y a des siècles en arrière.
Sur le territoire.
Voilà. Mais je crois qu'il est revenu suite à à la fin du petit âge glaciaire. Il a beaucoup recolonisé, il a été planté par endroits.
D'accord, il a aussi été réintroduit.
Il a aussi été réintroduit, et puis il y a des endroits où c'est une essence pionnière, donc qui va coloniser certains endroits qui n'étaient pas boisés au moment du minimum forestier. On sait qu'il y a eu une grande déforestation entre le Moyen-Âge et le 19e siècle. Et donc, c'est une essence qui a beaucoup recolonisé ces milieux ouverts aussi suite à la déprise pastorale qui entretenait ces milieux ouverts. Et en disparaissant un petit peu, le mélèze a repris de la place et s'est beaucoup imposé, en tout cas dans le paysage du nord des Hautes-Alpes.
Oui, on le voit partout, il est
voilà,
présent.
Voilà, il est assez omniprésent, ouais.
D'accord.
Donc, il y a cet élément-là. Il y a la diversité qu'on trouve dans la forêt ici. Les interviewés ont dit attacher beaucoup d'importance à cette diversité qui pouvait prendre différentes formes. Donc c'est une diversité parfois d'essences. Sur Guillestre, il y a différentes essences. On trouve, parce que c'est aussi une commune qui a l'intersection entre différents climats. On a un peu de climat montagnard, un peu de climat un peu plus chaud, un peu plus... Donc c'est quelque chose qui permet aussi cette diversité d'essence et d'ambiance forestière, qui est très, très appréciée. En tout cas, on lui attache une valeur particulière. Il y a la diversité, évidemment, aussi de la faune, de la flore. qui est apprécié dans la forêt. Donc c'est quelque chose que souvent qu'on va souhaiter préserver ou qu'on va souhaiter voir perdurer sur sa forêt. Il y a autrement des éléments qui sont dits naturels, donc qui peuvent avoir trait à l'idée qu'on se fait du sauvage. C'est quelque chose qui va échapper entre guillemets à notre domestication. Donc les personnes vont attacher de l'importance à ce côté un petit peu voilà, sauvage qui est aussi un échappatoire à la société. Les gens vont dire se sentir bien parce qu'elles ont le sentiment d'être dans un lieu où l'homme n'a pas forcément l'emprise qu'il a sur d'autres espaces. Alors on sait que les forêts sont aujourd'hui très anthropisées aussi. Elles sont évidemment gérées, etc. Mais c'est quelque chose en tout cas que les personnes vont parfois rechercher quand elles sont en forêt. Par aussi l'expérience sensible, on va apprécier les odeurs. Voilà. Il y a autrement quelque chose qui est beaucoup ressorti dans cette enquête, c'est le côté, la dualité un petit peu entre les milieux denses et les milieux plus ouverts, entre guillemets. Beaucoup de personnes vont dire apprécier se rendre dans des milieux ouverts. On est dans un endroit où on a des très beaux alpages, des forêts qui sont assez lumineuses, donc on peut la qualifier d'ouverte voilà, pour certains. Donc c'est ce côté parfois dense de la forêt qui arrive à des endroits. Il y a des lieux qui avant avaient un sous-bois moins dense et qui étaient fréquentés et qui aujourd'hui se densifient et les personnes se sentent un petit peu désappropriées de ces espaces. Ce qui peut être la source d'un jugement de valeur négatif de certains espaces.
Et parce que les forêts entre Guillestre et les forêts de Villars-Saint-Pancras sont similaires ?
Alors, elles sont similaires sur certains points. Donc, il y a le truc à Villars-Saint-Pancras, c'est que c'est une forêt qui est plutôt composée de mélèzes, de pins sambreaux. C'est une forêt qui est appréciée pour ça, pour le côté assez alpin. Tandis que Guillestre, comme je le disais, est plutôt à l'intersection entre un climat méditerranéen et montagnard. Donc on a du pin sylvestre beaucoup, on a donc du mélèze aussi, du sapin. Donc voilà, il y a quand même une identité assez forte entre ces deux forêts. Et voilà.
Ce qui peut expliquer du coup peut-être des objets d'importance qui vont être différentes aussi selon les territoires. Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez observé.
Alors, il y a un fort attachement quand même au mélèze sur les deux communes. Mais après, il peut y avoir des petites différences effectivement sur le côté dense qui n'est pas perçu de la même manière forcément sur les deux communes. Il y a des personnes à Villars-Saint-Pancras qui vont avoir plutôt l'impression que les forêts sont plus le sous-bois est plus aéré, on laisse moins la nature s'exprimer. Peut-être qu'il y a plus d'éclaircies qui sont faites. Donc ça peut aussi poser problème pour certains, dans leur manière d'apprécier la forêt. Donc ouais, il y a quand même des fortes différences d'attachement.
D'accord.
Voilà.
Oui, je vous ai coupé, autres résultats.
Il n'y a pas de souci. Donc un autre résultat, c'est évidemment donc, les ressources que peuvent nous apporter la forêt. Il y a historiquement sur les deux communes un attachement à l'usage du bois, donc par la fouage, par le prélèvement de bois en forêt aussi par les habitants, des personnes qui sont proches de cette ressource et des restrictions aussi peut-être nouvelles qui vont plus limiter le bois parce qu'aujourd'hui il y a besoin de bois en décomposition pour la qualité du sol. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'on a changé certaines mesures. Et puis, ça révèle que certaines personnes étaient quand même attachées au fait de pouvoir utiliser le bois de leur commune, de pouvoir se chauffer avec, l'utiliser pour différentes choses. Il y a aussi le côté, la fraîcheur que nous procure la forêt. On se rend compte aujourd'hui qu'avec, par exemple, avec le réchauffement climatique, que c'est, par exemple, dans le milieu du tourisme, quelque chose d'assez important qui commence à être un petit peu une opportunité pour échapper à la chaleur qui peut être limitante, en tout cas pour aller apprécier la nature. La fraîcheur, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sous le mélèze, même si c'est une essence qui laisse beaucoup passer la lumière, parce que ça transpire beaucoup. Donc il y a une fraîcheur de sous-bois qui est très à laquelle beaucoup de personnes attachent de l'importance, aussi des éleveurs qui vont beaucoup en alpage et qui ont besoin de cette fraîcheur. Il y a la cueillette, des personnes qui vont aller prélever des choses, des myrtilles, des framboises, des champignons. C'est quelque chose aussi d'important pour certains.
Là, on est toujours dans les ressources, tout ça.
C'est des ressources qui sont vraiment mobilisées et utilisées et qui sont un objet d'importance pour beaucoup de personnes. Ouais.
D'accord.
Ouais. Notamment les habitants et puis aussi sur le bois, et bien évidemment, les forestiers, les exploitants. Pour les scientifiques, il y aura aussi différents services rendus par la forêt. Donc ça, c'est pas forcément considéré comme des ressources en tant que telles, mais voilà, vraiment des services rendus par rapport à l'évolution les incertitudes liées au changement climatique. Les forestiers aussi qui s'aperçoivent qu'il y a beaucoup d'essences qui ne sont pas forcément très résilientes. Donc voilà, c'est beaucoup de choses que peuvent nous apporter la forêt. Aussi sur la qualité de l'air, qui est très appréciée. Ça, c'est d'autres services rendus. La qualité de l'air, la participation de la forêt dans la régulation du cycle de l'eau. Tous ces éléments, ils ont leur importance pour beaucoup de personnes ici. Les gens ont conscience aussi de la protection des forêts contre les risques naturels. Donc, des personnes lui attachent cette importance-là, quoi.
D'accord.
Voilà. J'ai fait un petit peu le tour de toutes les ressources.
De toutes les ressources identifiées. Et donc, ces ressources, vous les avez dans votre enquête, observées. Et est-ce que vous les avez corrélées avec, justement, soit le type de forêt, Villars, Saint-Pancras ou Guiès, ou en fonction des métiers ou des usages que les personnes pratiquent, ou est-ce que vous les avez plutôt extrapolés ?
Alors, selon la définition sur laquelle on s'appuie l'attribution de valeur à quelque chose, donc qui était énoncée par John Dewey, il y a effectivement cette idée qu'on accorde de la valeur à quelque chose par l'expérience. C'est aussi un processus dynamique en pratiquant une activité, un métier, un usage, en apprenant de l'autre. Il y a plein de manières, en tout cas, de construire cette attribution de valeur. Mais voilà, c'est pas que le métier, mais effectivement, ça peut aussi jouer, enfin, ça joue. Et chacun va voir de la valeur dans les formes, les qualités d'un arbre. Peut-être qu'un exploitant va, par exemple, apprécier un arbre qui est plutôt droit, qui n'a pas trop de branches, qui est d'une bonne qualité marchande, tandis qu'un naturaliste peut-être va aimer un arbre qui est tout tordu, qui va pas pouvoir apporter grand-chose économiquement, ce qui est aussi un enjeu important pour certaines communes d'avoir ce revenu de la forêt. Mais voilà, les arbres un petit peu qui sont tordus, qui sont vieux, vont souvent présenter des habitats pour la faune, la flore, les champignons. Donc c'est plein de manières de voir qui sont aussi qui découlent aussi de nos représentations personnelles et de la manière dont on s'est construit personnellement.
Est-ce que vous, quand vous avez commencé cette enquête, vous aviez j'imagine déjà des formes de présupposés, d'idées en tête. Est-ce que vous avez eu des surprises en menant l'enquête et en voyant ces résultats ?
Alors, je pense qu'on a toujours un peu des présupposés, effectivement. La méthode qu'on a appliquée, c'était justement dans le but d'éviter au mieux d'avoir ces biais-là qui sont dus aussi à l'hypothèse qu'on a posée au départ. Donc ça, c'était dans la méthode d'analyse où on a essayé de vraiment ne pas trop faire parler les idées qu'on avait au départ et de faire émerger les choses importantes pour les personnes, un petit peu par induction, de les faire ressortir du matériau sans en relisant chaque entretien au départ avec un peu, on appelle ça une attention flottante, en lisant avec la même attention tout, sans s'arrêter tout de suite sur certaines choses. Et puis aussi en sélectionnant des thèmes en nombre et en diversité suffisamment importante pour éviter de trop cloisonner le matériau et que notre idée de départ elle influence trop l'analyse qui peut se faire par la suite. Donc il y a plein de petites méthodes, je vous en ai cité une, mais pour éviter ces biais-là. Mais effectivement, il y a forcément le biais de l'enquêteur qui est à prendre en compte et il est inévitable.
Et ça, voilà, il n'y a pas eu une surprise en particulier
Une surprise en particulier Moi, j'ai été en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses, mais je m'attendais à apprendre beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça des surprises, mais j'ai en tout cas découvert plein de manières, en tout cas compris certains usages, plein de manières de vivre la forêt aussi. Et voilà, plutôt que des surprises.
Et donc là, on a fait le tour des résultats, des observations, de ces objets d'attachement. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Qu'est-ce que...
Alors, donc là, par rapport au travail de l'association, l'idée, c'est aussi de faciliter des fois des, donc, de la concertation, des choses qu'on pourrait faire ensemble. Et là, l'idée de cette enquête, c'était aussi de proposer un point de départ sur une méthodologie à éventuellement mettre en place, des préconisations que j'ai pu faire aussi des préconisations pour, par rapport au cadre de travail ensemble, en vue effectivement de prendre en compte ces objets d'attachement dans le travail collectif. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire parce que la dynamique de groupe va faire qu'on va choisir certaines choses. La participation individuelle, ça peut être compliqué parfois parce que le groupe fait aussi qu'on ne va pas forcément exprimer chacun soit à quoi on attache de l'importance. En fonction de notre interlocuteur, on va peut-être adapter notre discours, nos enjeux, par comparaison ou par mutualisation des informations. Donc il y a tout un cadre que j'ai proposé pour vraiment prendre en compte ces sujets d'attachement dans le travail collectif et que chacun puisse... Là, c'est Joël Zask qui propose des idées sur la participation. Donc l'idée, c'est que chacun puisse participer en prenant part à quelque chose et tout en bénéficiant et en pouvant y apporter aussi quelque chose. Donc c'est le fait de pouvoir apporter quelque chose au groupe et en bénéficier. Donc il faut être vraiment vigilant à ça. Et le cadre que je propose, c'est donc l'intelligence collective notamment, donc tout un cadre d'écoute, de respect mutuel. Et il y a deux éléments que j'ai identifiés aussi comme... Enfin, trois éléments que j'ai identifiés comme vraiment importants. C'est d'abord l'interconnaissance. C'est un petit peu le point de départ dans le fait de faire ensemble pour prendre en compte ces sujets d'attachement. C'est donc de prendre connaissance de ce qui est important pour l'autre. Donc c'est un moment où d'abord il y aura besoin peut-être d'une introspection, qu'on note chacun ses idées pour pas que le groupe influence directement notre discours. Mais voilà, ensuite de mettre tout ça en commun et puis d'essayer de faire émerger certains enjeux. Donc ça c'est le deuxième point, c'est d'identifier les besoins de chacun, les enjeux auxquels chacun est confronté, et peut-être les défis, les difficultés dans telle activité ou usage. Ça, c'est le point de départ un petit peu du faire ensemble, parce qu'on pourrait aussi se satisfaire de l'interconnaissance, c'est-à-dire de mieux connaître l'usage de l'autre. Il y a eu un fort besoin exprimé par certaines personnes d'échanger et de mieux comprendre pourquoi telle personne attache de l'importance à telle chose. Mais à partir de là, on peut décider de faire ensemble. Donc c'est là où les enjeux deviennent importants. Et donc le troisième point, c'est l'apprentissage mutuel. Donc là, c'est plus d'apprendre ce à quoi chacun attache de l'importance, mais d'apprendre aussi des autres, des connaissances des autres, des compétences de chacun, parce qu'il y a certains éléments qui sont qui n'ont pas trait à l'attachement personnel, mais qui sont vraiment des choses à prendre en compte et qui sont un petit peu avérées. C'est-à-dire que pour favoriser... la résilience de telle espèce, il va peut-être falloir faire quelque chose comme ça, et donc ça va expliquer aux autres usagers pourquoi on fait comme ça. Donc voilà, ça permet à chacun de mieux connaître tout ça. Et puis c'est un moyen aussi de mutualiser les moyens en vue de faire ensemble et les connaissances en vue d'augmenter le potentiel du groupe, en tout cas d'un petit peu le faire avoir le meilleur potentiel possible.
Ouais, donc là, c'est plus pour des préconisations, pour une mise en application dans le cadre de faire ensemble, c'est ça ?
Voilà, c'est vraiment un cadre et une méthodologie, parce qu'on n'en est pas encore au stade forcément de proposer tout de suite des idées concrètes. J'ai quand même proposé quelques idées concrètes, mais après, ce sera à chaque participant de choisir, en tout cas, ce sera au groupe de choisir les modalités du travail ensemble. Donc, tout ça, c'est des idées. Mais j'ai proposé certaines choses, comme des ateliers de, par rapport à l'interconnaissance, où je développe un petit peu comment faire, comment s'y prendre, sur la base de ressources que j'ai pu trouver. Et puis, et sur l'intelligence collective aussi, tout le cadre que j'ai un petit peu détaillé, l'importance d'animer le groupe et de la facilitation dans l'intelligence collective. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont assez importants si l'on souhaite prendre en compte ce à quoi chacun attache de l'importance.
Est-ce qu'il y a déjà des projets à Forêt Alpine dans lesquels on pourrait, ou vous avez pensé utiliser donc ces résultats et ces préconisations, là actuellement ou dans un futur proche ?
Alors actuellement, enfin, il y a eu des ateliers qui ont été faits, il y a eu des rencontres qui ont pu être faites entre différents acteurs et usagers. L'idée, c'est de peut-être s'inspirer de certaines choses que j'ai pu inscrire pour dans des futurs travaux qui pourront être faits comme ça. Mais il y a certains besoins qui ont été exprimés par des acteurs et des usagers, des personnes qui souhaitent se réunir. Donc effectivement, ça pourrait être pris en compte à l'avenir dans les futurs travaux dans lesquels serait impliqué Forêt Alpine. Et c'est ce sur quoi on l'attend peut-être aussi. L'association, c'est de proposer aussi un cadre sur ces choses-là, sur ce faire ensemble, quoi.
Et donc pour celles et ceux que ça intéresse, vous proposez une restitution de tout ce travail le 11 septembre, voilà, à l'Argentière LABC, c'est ça ?
À 18h30.
À 18h30. Et où est-ce qu'on pourra retrouver le résultat, le mémoire, sous quelle forme et où ?
Alors, on n'a pas encore connaissance de la date du mémoire, de rendu du mémoire public. Mais il sera effectivement diffusé. Il y aura donc des informations qui seront sûrement aussi sur le futur site internet de l'association qui va avoir le jour de Forêt Alpine, pardon. Et voilà, il y aura c'est l'idée.
Et vous alors, quelle suite pour vous ?
Alors moi, j'aimerais bien continuer à travailler sur la forêt. Je ne sais pas exactement dans quel contexte, je vais essayer de voir les opportunités qui se présentent, mais ça m'intéresse de travailler sur la forêt, de voir comment est-ce qu'on peut un petit peu améliorer nos réponses à certaines difficultés qu'on rencontre, comment on peut se rassembler autour d'enjeux, mais à voir effectivement sous quelle forme. Et après, c'est l'objet forêt qui m'intéresse beaucoup. Ouais.
Merci Roland Buquet. Donc je le rappelle, vous êtes étudiant Master 2 de gestion durable des territoires de montagne à Gap, et vous avez mené cette enquête avec Forêt Alpine, une enquête sur à quoi est-ce qu'on tient dans les forêts communales. Et bien, donc une affaire à suivre, on retrouvera rapidement vos résultats. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Belle journée.